un mot sur ce titre. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'encyclopédie, qui est assez bien connue, notamment par les travaux récents du grand historien américain Robert Darnton. Je vais bien parler de l'esprit de l'encyclopédie, c'est-à-dire de l'orientation générale qui a été donnée à cette entreprise par ses trois co-directeurs, D'Alembert et Diderot en particulier. D'Alembert et Diderot, l'un dans le discours préliminaire de l'encyclopédie et l'autre dans l'article Encyclopédie paru dans le tome 5 du dictionnaire, ont insisté comme ils le devaient sur la nouveauté de leur entreprise, plus que sur les ressemblances qu'elle pouvait avoir avec d'autres ouvrages du même genre. Dans l'ignorance où l'on était alors, en général, de l'histoire de la Chine, du Japon, de l'Inde, du monde musulman, et en raison du préjugé selon lequel les 12 siècles qui avaient précédé la Renaissance en Europe n'avaient été que ténèbres, ils prirent de bonne foi pour des nouveautés ce qui n'en était pas toujours. En effet, il y a dans l'esprit de l'encyclopédie un certain nombre de traits qui sont déjà communs à des entreprises antérieures. Les nombreuses encyclopédies produites dans le monde depuis l'ère Ya, du début de la dynastie des Han, 2e siècle avant notre ère, jusqu'à l'encyclopédie hindoue, écrite au 16e siècle pour endiguer dans l'Inde le flot de l'islam, ces encyclopédies avaient pour fonction première de recueillir, pour les fixer et les préserver, les acquis d'une civilisation. Cette fonction est bien attestée dans la tradition chinoise d'inspiration confucéenne, dans l'islam, dans les encyclopédies du Moyen Âge chrétien. En situant le début de la modernité au XVIe siècle, D'Alembert et Diderot se présentent eux aussi comme les mainteneurs d'une tradition. Cette tradition a ses pères fondateurs, Galilée, Francis Bacon, Descartes, Newton, Locke, Bell. C'est dans ces auteurs et chez leurs disciples du XVIe au XVIIe siècle et au XVIIIe que la plupart des articles et des planches du dictionnaire trouvent leur source. En un sens, l'encyclopédie clôt ce que nous appelons aujourd'hui l'âge classique. Je vous rappelle que pour les historiens modernes des idées et pour des philosophes comme Michel Foucault, l'âge classique est une seule période qui va du début de la Renaissance à la Révolution française. Classique, l'encyclopédie l'est aussi par son souci affiché de l'ordre. Le système figuré des connaissances humaines, qui sert de portique au dictionnaire, est une survivance. Et d'ailleurs, ni D'Alembert ni Diderot ne le trouvaient satisfaisant. Diderot disait bien, qu'aucun être dans l'univers ne pouvait être appelé ou le premier ou le dernier. En ordonnant comme il le fait les connaissances humaines aux grandes facultés que sont la mémoire, la raison, l'imagination, en rattachant comme le fait D'Alembert cette distribution à une généalogie des opérations de l'esprit, en s'ingéniant comme ils le font constamment l'un et l'autre à situer chaque article du dictionnaire sur les axes syntagmatiques et paradigmatiques d'une grille unique de lecture, ils ne se différencient pourtant pas au fond de leurs prédécesseurs. L'homme universel, notion abstraite, construite par le classicisme européen, tient simplement dans le système la place que tenait le Fils du ciel dans la philosophie confucéenne ou Dieu dans les traditions islamiques et chrétiennes. La seule nouveauté, c'est que ce choix est présenté comme arbitraire et nécessairement arbitraire. C'est en effet une nouveauté extraordinaire de présenter le choix de ce repère absolu comme arbitraire. Il est d'autres points encore sur lesquels nos encyclopédistes ont surestimé l'originalité de leur entreprise. Ils la voulaient indépendante du pouvoir d'État autant que du pouvoir spirituel, alors que la plupart des encyclopédies du Moyen-Âge avaient été patronnées par l'un ou par l'autre. Elle ne le fut pourtant pas vraiment, et face à ses nombreux ennemis, elle ne dut finalement sa survie qu'à la protection de ministres intelligents, le chancelier d'Aguesseau, le comte d'Argenson, Malesherbes. J'insiste sur cette particularité de l'histoire de l'encyclopédie parce qu'elle n'est pas suffisamment connue. On insiste généralement dans les manuels sur le caractère subversif de l'entreprise encyclopédique. Ce caractère existe, mais il est surtout relatif au pouvoir spirituel de l'Église. Par rapport au pouvoir politique, c'est plus nuancé, c'est plus mélangé. Le pouvoir royal, par l'intermédiaire de quelques-uns de ses grands ministres, a compris au XVIIIe siècle que l'encyclopédie devait, en dernier ressort, être protégée. Et il l'a protégée. Les encyclopédistes se flattaient d'avoir réuni autour d'eux une libre société de gens de lettres et d'artistes, parce qu'ils pensaient, à juste titre, qu'une encyclopédie ne peut être l'œuvre d'un seul homme, ni même d'une seule institution, si prestigieuse soit-elle. Ils ne connaissaient évidemment pas l'encyclopédie islamique des Frères de la Pureté, rédigée au Xe siècle à Bassora. Ils ne savaient pas qu'au XVe siècle, sous les empereurs Ming, le Yunglo Ta Tien, excusez la prononciation, avait mobilisé plus de 2000 savants chinois. Ils étaient fiers d'avoir hissé les arts mécaniques au rang des arts libéraux. Ce n'était pourtant pas tout à fait neuf. Dès le Xe siècle, les Frères de la Pureté que je viens de citer osait voir dans chaque artisan un fragment de l'âme universelle au travail. En Europe même, au XIIIe siècle, Hugues de Saint-Victor faisait de la Philosophia Mechanica une des quatre parties de la philosophie. Dans le même temps, Albert le Grand lisait des descriptions de métiers, interrogeait les ouvriers, visitait les ateliers et les mines pour nourrir son encyclopédie achevée en 1256. Enfin, pour en finir avec cette première partie, tout esprit critique était-il absent de ces énormes sommes accumulées dans les bibliothèques de Pékin, de Bagdad, de Cordoue, des monastères anglais, allemands, français? Eh bien là encore, il faut corriger quelques opinions reçues. L'esprit critique n'a pas été inventé par les philosophes français du XVIIIe siècle. L'islam eut ses philosophes avant la chrétienté. Dès le IXe siècle, Jahiz ose critiquer Aristote et soumettre la recherche de la vérité à l'arbitrage de la raison. Un siècle plus tard, le mysticisme des frères de la pureté est mêlé d'assez de rationalisme pour inquiéter les défenseurs de l'orthodoxie islamique. Au XIVe siècle, le Tunisien Ibn Khaldoun met l'homme au centre de sa réflexion et fait appel à l'histoire et à la sociologie plutôt qu'à une phénoménologie de l'esprit pour expliquer l'évolution de l'humanité. Un peu plus tôt, en Chine, Ma Tuanlin s'était aussi permis d'insinuer le doute sous forme de brefs commentaires critiques dans l'énorme compilation intitulée Wen Xian Tong Cao. Mais, et j'en viens maintenant au second volet de ce tableau, si hardis que fussent parfois les prédécesseurs des encyclopédistes du XVIIIe siècle, il est une limite qu'ils n'avaient jamais franchie. Les adeptes musulmans de la philosophie, qui se dit en arabe falsafa, excusez encore la prononciation, pouvait jouer de l'autorité d'Aristote contre celle du prophète Mahomet. Il ne pouvait mettre en cause le principe même de l'autorité. Même impossibilité chez les encyclopédistes chrétiens du XIIIe siècle. Voici un texte de D'Alembert sur ce point. « On était, écrit D'Alembert, persuadé depuis un temps pour ainsi dire immémorial qu'on possédait dans toute sa pureté la doctrine d'Aristote, commentée par les Arabes et altérée par mille additions absurdes ou puériles. Et on ne pensait même pas à s'assurer si cette philosophie barbare était réellement celle de ce grand homme, tant on avait conçu de respect pour les anciens. » Le mot « ancien » étant écrit naturellement avec un A majuscule. Fin de citation. En matière de science, la Bible et la tradition de l'Église romaine n'ont pour nos encyclopédistes, pas plus d'autorité que le Coran, allié ou non avec Aristote, comme l'a tristement montré le procès fait à Galilée. « Je ne peux souffrir, » écrivait Diderot, « qu'on s'appuie de l'autorité des auteurs dans les questions de raisonnement. » Fin de citation. Certains auteurs arabes, plusieurs auteurs chrétiens du Moyen-Âge, Bayle encore, considéraient que la raison et la foi étaient des voies d'accès à la vérité, différentes de nature, mais convergentes dans leur finalité. Les encyclopédistes vont jusqu'au bout de la révolution galiléenne en décidant que, dans son ordre, la raison seule doit avoir le premier et le dernier mot. Voici quelques fragments tirés d'un article de Diderot qui explique ce qu'est l'exercice de la raison, tel que le conçoivent les encyclopédistes. Assigner les causes quand on les connaît. Indiquer les effets lorsqu'ils sont certains. Apprendre aux hommes à douter et à attendre. Distinguer le vrai du faux, le vrai du vraisemblable, le vraisemblable du merveilleux et de l'incroyable, les phénomènes communs des phénomènes extraordinaires, les faits certains des douteux, ceux-ci des faits absurdes et contraires à l'ordre de la raison. Telles sont, selon Diderot, ces tâches essentielles. Encore faut-il qu'elles puissent s'exercer sans entrave, dans les seules limites que lui impose la portée de nos instruments et la capacité de notre intelligence. À cet égard, les encyclopédistes se méfient de la raison même, tentée parfois d'ériger en système des hypothèses générales de recherche. D'Alembert l'indique brièvement dans le discours préliminaire de l'encyclopédie. L'esprit de système, écrit-il, est dans la physique ce que la métaphysique est dans la géométrie. S'il est quelquefois nécessaire pour nous mettre dans le chemin de la vérité, il est presque toujours incapable de nous y conduire par lui-même. Fin de citation. Diderot, de son côté, a écrit en marge de l'encyclopédie un livre entier, Les pensées sur l'interprétation de la nature, pour démontrer la supériorité des systèmes purement conjecturaux élaborés par la philosophie expérimentale sur ceux dans lesquels la philosophie rationnelle, comme il dit, croit avoir l'expression de la réalité ultime. Il y a donc système et système. Il y a le système élaboré à titre provisoire pour fournir une hypothèse dans la recherche expérimentale. Ce système-là est bon. Et il y a le système construit abstraitement par l'esprit qui tient lieu par conséquent d'expérience. Et ce système-là est mauvais, parce qu'il croit tenir lieu d'expérience. Un autre principe cher aux encyclopédistes est celui de l'utilité. Sans doute n'était-il pas inconnu de leurs prédécesseurs. tous, depuis l'Antiquité, tous pensaient naturellement être utiles. Utiles à l'empereur de Chine, utiles au calife, utiles aux mandarins lettrés, aux clercs, aux honnêtes gens. Ils pensaient leur être utiles pratiquement, moralement, mais surtout spirituellement, en leur donnant les moyens d'aller toujours plus loin dans la connaissance des vrais principes du Tao pour la Chine, de l'illumination pour d'autres religions ou de la révélation pour le christianisme. L'utilité visée par les encyclopédistes du XVIIIe siècle est essentiellement pratique. Mais ce que Diderot appelle l'intérêt général du genre humain englobe à la fois le bonheur matériel et le bonheur moral. L'un ne peut pas être assuré sans l'autre. Je cite Diderot, « Car tout ce qui n'est pas le bonheur et la vertu, tout ce qui n'a pas le bonheur et la vertu pour fin dernière, n'est rien. » De ce point de vue, le laïcisme des encyclopédistes, si insupportable qu'il parut aux tenants les plus outrés de la tradition religieuse dominante, bien représenté dans le jansénisme de la caste parlementaire, consonnait assez bien avec une tendance générale du clergé catholique et des protestants libéraux du temps à orienter leur catéchèse et leur prédication vers la formation morale et civique. J'ouvre ici une parenthèse pour préciser que si l'encyclopédie a bien lutté globalement contre la domination de l'idéologie religieuse de son temps, elle a cependant réuni en son sein un certain nombre de prêtres et de pasteurs qui étaient convaincus, comme Diderot et d'Alembert, que la première tâche de la philosophie était de rendre les hommes pratiquement heureux. C'est à ce clergé-là, c'est à ces pasteurs-là que les encyclopédistes se sont adressés. C'est ce clergé-là et ce sont ces pasteurs-là qui, plus tard, ont soutenu la révolution à ses débuts. Ce que les encyclopédistes ont laissé de plus utile à la postérité et de plus nouveau aussi n'est ni le tableau d'histoire un peu trop triomphaliste brossé par d'Alembert dans le discours préliminaire, ni le portique ambitieux dressé par Diderot en tête du tome 1 du dictionnaire, et que j'ai cité tout à l'heure sous le titre de « Système général des connaissances humaines ». Ce qu'ils ont laissé de plus utile, c'est le souci constant qu'ils ont de donner à chaque science sa pleine autonomie, dans son ordre et selon sa fin propre. Il faut, disait Diderot, et c'est une proposition extrêmement moderne, il faut admettre sans exception tout ce qu'une science comprend, abandonner chaque matière à elle-même et ne lui prescrire d'autres limites que celles de son objet. Fin de citation. Est-ce à dire que l'encyclopédie, en tournant le dos, en fait, au principe d'ordre, même arbitraire, affirmée dans le système figuré des connaissances humaines ne devait être qu'une collection de traités juxtaposés, étanches les uns aux autres. Ce serait le cas si les éditeurs de l'encyclopédie n'avaient ménagé un grand nombre de passerelles entre ces différents traités pour permettre aux savants et aux artistes de comparer les acquis de leur discipline et de chercher entre elles les analogies fécondes. Plus qu'une collection de traités, mieux que la mise en ordre factice des connaissances humaines selon les axes d'une grille de lecture unique, l'encyclopédie est un ouvrage véritablement pluridisciplinaire et polytechnique. La fonction la plus intéressante des renvois est justement de signaler les carrefours. Je cite Diderot. Il y a une sorte de renvoi à laquelle il ne faut ni s'abandonner, ni se refuser entièrement. Ce sont ceux qui, en rapprochant dans les sciences des qualités analogues, dans les arts des manœuvres semblables, conduiraient ou à de nouvelles vérités spéculatives ou à la perfection des arts connus, ou à l'invention de nouveaux arts, ou à la restitution d'anciens arts perdus. Quand je dis les arts, il s'agit naturellement des arts mécaniques. C'est toujours dans ce sens que les encyclopédistes emploient le mot art. Autrement, ils disent, comme nous, les beaux-arts. L'originalité de l'encyclopédie n'est pas tant d'avoir réhabilité moralement les arts mécaniques. Elle est surtout d'avoir considéré qu'il y a une intelligence des métiers et des machines égale en subtilité, en rigueur et en invention, à celle des sciences spéculatives ou expérimentales. Et c'est d'avoir donné à ces différents types d'intelligence la possibilité de se reconnaître. Le mérite en revient principalement à Diderot, qui avait fréquenté les ateliers des artisans. Bien qu'il fût surtout mathématicien, D'Alembert partageait sur ce point les vues de son confrère. C'est D'Alembert qui écrit « C'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses ressources. » Fin de citation. On aura remarqué en passant la place laissée ouverte à l'invention. On ne peut pas dire cependant que l'encyclopédie ait permis beaucoup d'innovations. Elle en a même négligé quelques-unes d'assez grand avenir, comme la machine à vapeur. Mais ce qui compte dans cette affaire, c'est l'intention. Et du moins, l'intention était belle. Dans l'esprit des promoteurs de l'encyclopédie, dans celui de Diderot en particulier, l'encyclopédie n'était que secondairement le bilan d'une ère proche d'être close. Ce devait être aussi une œuvre en mouvement, entraînée par le flux des choses et le dépassant parfois. Ce rapport au temps est une des grandes nouveautés de l'encyclopédie et Diderot en avait une conscience aiguë. Il dit à ce sujet, une encyclopédie doit être commencée, continuée et finie dans un certain intervalle de temps. Il voyait bien que son ouvrage se démoderait d'autant plus vite que le progrès des sciences et des techniques serait plus rapide. Il devait donc rester ouvert en permanence à ce progrès. Si nos neveux s'occupent de l'encyclopédie sans interruption, disait-il, ils pourront conduire l'ordonnance de ces matériaux à quelques degrés de perfection. Aussi bien, le dictionnaire devait-il avoir ses rééditions, son supplément et une suite monumentale, l'encyclopédie méthodique de Panckoucke. En un sens, l'œuvre n'a été réellement achevée que vers 1830. J'entends par le mot œuvre au masculin cet immense ensemble qui va des tout premiers volumes de l'encyclopédie de Diderot au tout dernier volume de l'encyclopédie méthodique de Panckoucke. L'encyclopédie, en réalité, c'est tout cet ensemble, commencé au milieu du XVIIIe siècle, achevé, et ça n'est pas un hasard, au moment de la Révolution de 1830. Cette façon extrêmement hardie d'inscrire l'encyclopédie dans la longue durée est inséparable de la constitution d'un public. Il faut ici distinguer entre le public réel auquel fut destinée la première édition du dictionnaire et le public potentiel qui devait être à la longue touché par sa diffusion. Par son prix, par son volume, la première édition de l'encyclopédie ne devait toucher qu'un public restreint. Diderot et d'Alembert écrivaient pour des lecteurs cultivés, ayant du bien, intéressés à la bonne marche de l'économie et de l'État. Mais ils visaient à terme un public infiniment plus vaste, coextensif à la nation entière. Diderot disait « L'homme du peuple est le savant. » L'homme du peuple et le savant auront également à désirer et à s'instruire dans une encyclopédie. Les femmes, les enfants même, il faut beaucoup d'audace pour l'écrire en 1755, les femmes et les enfants peuvent accéder aux connaissances réservées jusqu'alors à une élite. L'encyclopédie est caractérisée par le souci de mettre véritablement les connaissances les plus hardies à la portée du plus grand nombre. L'article « Encyclopédie » contient une réflexion sur la langue et le style qu'on serait en peine de trouver dans les ouvrages de ce genre depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, depuis la Chine jusqu'à l'Europe. Il faut, écrit Diderot, se garantir singulièrement de l'obscurité et se ressouvenir à chaque ligne qu'un dictionnaire est fait pour tout le monde. Plus les matières seront abstraites, plus il faudra s'efforcer de les mettre à la portée de tous les lecteurs. Fin de citation. Évidemment, on ne jurerait pas que n'importe quel sujet du roi Louis XV sachant lire et écrire, ait pu effectivement accéder à toutes les parties du dictionnaire. Je vous rappelle en passant qu'au temps de Louis XV, l'immense majorité de la population française était composée de paysans. La majorité de cette majorité était composée de gens qui ne savaient ni lire ni écrire, et même la plus grande partie d'entre eux ne parlait pas le français, mais un dialecte, une langue étrangère ou un patois. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est l'intention. Toutes les parties du dictionnaire sont rédigées de façon à permettre à tout savant ou artiste de comprendre pour l'essentiel ce que pensent et écrivent les autres. Cette intercompréhension est essentielle à la communication souhaitée entre les diverses formes de l'intelligence. Elle permet leur fécondation réciproque. C'est d'ailleurs le principal moyen imaginé par les encyclopédistes pour rencontrer en avant l'esprit de la nation, selon le beau mot de Diderot, rencontrer en avant l'esprit de la nation. L'encyclopédiste, homme de lettres, savant ou artisan, qui lit les articles de ses confrères, aussi bien que le souscripteur qui aborde l'œuvre du dehors, est invité, en effet, à entrer dans un débat permanent. Les renvois, qui sont très nombreux dans les articles de l'encyclopédie, les renvois y contribueront. Je cite, « Ils opposeront les notions, ils feront contraster les principes, ils attaqueront, ébranleront, renverseront secrètement quelques opinions ridicules qu'on oserait insulter ouvertement. Si l'auteur est impartial, ils auront toujours la double fonction de confirmer et de réfuter, de troubler et de concilier. » Fin de citation. Cela suppose que le lecteur soit actif, s'engage dans sa lecture et ne respecte pas plus l'autorité du dictionnaire que les encyclopédistes ne respectent l'autorité en général. C'est peut-être là la pointe essentielle de l'encyclopédie. Faire en sorte que les lecteurs participent à la construction de l'esprit nouveau par leur réaction aux articles qu'ils lisent. Et d'ailleurs, dès les premiers tomes de l'encyclopédie, les éditeurs ont souhaité que les lecteurs écrivent, comme aujourd'hui les journaux souhaitent que leurs lecteurs écrivent. Et des lecteurs ont écrit. Et dans plusieurs volumes de l'encyclopédie, il y a des articles qui ont été fournis volontairement par des lecteurs inspirés de l'esprit nouveau. Je cite Diderot à propos des renvois qui sont un constant appel au travail des lecteurs. Si ces renvois de confirmation et de réfutation sont prévus de loin et préparés avec adresse, ils donneront à une encyclopédie le caractère que doit avoir un bon dictionnaire. Ce caractère est de changer la façon commune de penser. Fin de citation. Liberté de penser et d'écrire. Liberté de croire et de ne pas croire. Liberté de créer. Liberté d'innover. Séparation de l'Église et de l'État. Principe de la souveraineté nationale. Tolérance étendue jusqu'aux athées. Mise en place d'un contre-pouvoir de l'opinion publique. Ouverture au monde extérieur ne sont que les conséquences des grands principes que je viens d'énumérer. Ce sont autant de mots d'ordre pour l'action qui rallièrent le grand nombre de ceux qu'on n'appelait pas encore en ce temps-là des intellectuels. Grâce aux rééditions de l'encyclopédie en France, en Italie, en Suisse, et à l'audience qu'avait alors au loin le français, se substituant transitoirement au latin, ces principes devaient, en 3 ou 4 générations, avoir des échos en Europe et dans le monde entier, bien au-delà du cadre national étroit dans lequel ils avaient été lancés. Je vous remercie de votre attention.